bonjour. On est le 21 janvier, dimanche. Hier, on avait abordé la notion et l'exploration de l'intention et l'importance de les intentions, de formuler les intentions, de regarder ce que c'est nos intentions. C'était dans le cadre de la nouvelle année, mais aussi dans une assise, dans notre vie de tous les jours, dans nos relations avec notre famille, nos collègues, etc. Et comment les intentions, nos actions vont être colorées par nos intentions. Nos intentions vont influencer les actions qu'on va poursuivre à la suite. Et on peut utiliser les intentions pour nous rappeler, pour revenir, quelle était mon intention? Quelle est mon intention dans cette situation? Est-ce que je veux essayer de ne pas être agressif, ou est-ce que je veux gagner à tout prix l'argument avec quelqu'un? Je ne sais pas, je pense à comme exemple. On revient à nos intentions. Et j'avais utilisé un exemple que j'avais lu, que quelqu'un d'autre racontait, qui était... elle donnait l'exemple que si elle allait de San Francisco à Seattle, qui est au nord de San Francisco, elle gardait toujours un œil sur le soleil pour que le soleil était toujours en train de se coucher à sa gauche. Comme ça, elle savait qu'elle allait toujours au nord. Et le soleil, elle utilisait ça d'une façon métaphorique pour nos intentions, c'est un peu comme le soleil. Donc on revient à pour vérifier où on en est vis-à-vis de nos intentions. Et quand on a parlé de ça hier, j'avais proposé aux gens hier de regarder pendant la journée, pendant l'assise, de s'interroger quelles sont mes valeurs les plus profondes, qu'est-ce que je tiens à cœur, etc. Et à la suite de ça, formuler les intentions. J'avais donné plein d'exemples, je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui. Et j'ai pensé hier soir, après, à la suite de ça, il m'est venu cette histoire qui est connue, c'est raconté dans différentes traditions, avec différents détails, mais toujours la même histoire. C'est la version que moi je connais, c'est un sage chinois, je crois. On lui demande comment on peut distinguer l'enfer et le paradis. Et le sage répond, quand je... On m'amène voir l'enfer et je regarde et je vois un groupe de gens avec un fabuleux banquet, un repas sublime devant eux. Ils sont en cercle, mais ils sont affamés, frustrés, ils crèvent parce que leurs baguettes, ils ont des baguettes. Parfois, quand c'est raconté dans d'autres traditions, c'est des cuillères, mais leurs baguettes sont... Tu connais cette histoire? Leurs baguettes sont trop longues. Ils n'arrivent pas à se prendre la nourriture et se nourrir. Et donc, celui qui interroge dit au sage, alors, et donc, quelle est l'image de... quel est le paradis, alors? Et il dit, c'est la même scène, le même repas, les mêmes gens, sauf que dans cette fois-ci, ils ils utilisent tous leurs baguettes pour nourrir les personnes en face d'eux. Et donc tout le monde est nourri. Ils se servent de leurs baguettes, qui sont trop longues pour eux, mais ils atteignent parfaitement la personne en face d'eux, pour se nourrir. Et tout le monde est nourri, heureux, il y a assez pour tout le monde, etc. Et cette histoire m'est venue parce que j'aime beaucoup cette histoire. Et j'avais, au mois de décembre, dans le magazine Regard Bouddhiste pour lequel j'écris, j'avais commenté cette histoire. Donc je pense que c'était un peu dans ma tête, cette histoire, et ça m'est venu hier soir. Alors là, c'est un exemple d'intention. Est-ce qu'on a l'intention de se nourrir tout seul? Ou est-ce qu'on a l'intention de veiller à ce que tout le monde a ce qu'il faut et nourrir les uns les autres? Ça, c'est une histoire d'intention. Et ça correspond à différentes possibilités qu'on peut vivre dans nos vies de tous les jours. On a tous, je crois que la nature humaine a multiples facettes, mais on peut dire qu'il y a une facette égocentrique et une facette altruiste. Dans la facette égocentrique, c'est on s'occupe de nous-mêmes. Et dans la facette altruiste, c'est on s'occupe des autres. Les deux sont nécessaires, parce que si on ne s'occupe pas de nous, on ne peut pas survivre. Et si on ne s'occupe pas des autres, le monde va mal finir, hein, parce que ce n'est pas possible de survivre tout seul. Si chacun prend que pour soi, ce n'est pas possible, et on voit des dégâts aujourd'hui. Ou on est dans un système... Je suis aussi en train de lire un livre qui s'appelle Buddhist Economics. Et donc, c'est tout ce que j'expérimente en ce moment est très influencé par ça, sur les sciences économiques bouddhistes. Ce qui est fascinant avec ça, c'est que ça, c'est des exemples qui prennent l'ampleur sur un niveau économique et social, mais ça a des effets sur l'environnement. Ça a les effets sur les guerres, sur les migrants, sur les politiques, même sur le culturel. Donc c'est pas juste économique. Mais grosso modo, si je résume, si on le met dans le contexte de l'économie, le marché... le système capitaliste free market, comment on dit ça en français,
de libre-échange,
peut-être libéral, oui. Libre,
économie de marché,
économie de marché, c'est ça, free market peut-être, oui. Et basé sur un principe que l'être humain est égocentrique et par nature, et qui la satisfaction et le bonheur vient en profit et consommation.
Consommation.
Et croissance sans fin. On ne s'occupe pas des inégalités, on ne s'occupe pas de l'environnement, on ne s'occupe pas de... si, selon ce système, bon, je ne suis pas économiste, mais tu vas savoir mieux que moi, mais bon, j'ai étudié l'économie à la fac comme tout le monde. C'est ce système apprend principe que ça va s'auto-régler. Qu'il y aura...
Régulé.
Quoi ?
Régulé.
Régulé. Et qu'il y aura le supply and demand.
L'offre et la demande.
L'offre et la demande vont se... Vrai, et tout va bien. Oui, donc vous connaissez le langage en français, moi je ne connais qu'en anglais ces termes. Ça va s'équilibrer toute seule, et comme tout le monde est pour soi, c'est pas grave s'il y en a qui ont plus que d'autres. Ceux qui ont moins, ils n'ont qu'à se débrouiller mieux. Enfin, c'est plus ou moins. Et on voit ça en gros exagération aux États-Unis. Et l'économie bouddhiste, donc, va prendre, les sciences économiques bouddhistes vont prendre une autre position, c'est-à-dire que l'être humain est par nature altruiste et le bonheur et la satisfaction est mesuré pas par les profits et la croissance sans fin et du consommation, de plus en plus, mais dans l'égalité, la satisfaction, le développement de soi et vivre une vie qui a du sens. J'ai simplifié beaucoup, mais c'est plutôt ça. Et que on peut mesurer, bon, dans le système capitaliste, on peut mesurer le bonheur, mais le succès d'une économie, la puissance d'une économie, par les profits, par sa richesse matérielle. Tandis qu'on va, dans le système bouddhiste, on va mesurer le succès ou le bien-être la qualité d'une économie ou d'un pays, on va mesurer les inégalités, on va mesurer le bonheur des gens, la satisfaction dans leur vie, etc. Non matérialiste. Bon, tout ça pour dire, c'est un exemple de les intentions qui ont une influence phénoménale sur les actions. Et ça, c'est un. Bon, pour rester dans les terminologies économiques, ça c'est un exemple macroéconomique.
Il n'y a pas que les économistes bouddhistes qui tiennent ça.
Non, je sais. Je sais. Et c'est, à l'origine, il y avait. Non, je dis ça parce qu'on est dans ce contexte-là. Mais alors, une des premières livres qui. Ou penseurs qui ont fait ça, c'était au début des années 70. Small is beautiful. Schumacher. C'est ça, je pense. Oui, c'était un superbe, énorme livre à l'époque. C'était un best-seller et on aurait pu imaginer que le monde sera différent aujourd'hui, mais non. Mais non, il y en a plein d'autres. Et qui ont différentes tangents dans ça. Différentes interprétations et manifestations de comment ça fait ça, que ça se manifeste. Mais ça, c'est juste dans la sphère économique. Mais dans toutes les sphères de notre vie, les intentions, sont fondamentales pour comment on agisse dans le monde et dans nos vies. Et on avait dit ça hier, que les Tibétains ont une pratique que chaque fois qu'ils s'assoient, ils regardent leurs intentions et à la fin, ils font une dédicace pour remercier, pour dédier les bienfaits de leur pratique, etc. À tous les êtres, etc. Et qu'on peut utiliser, on peut faire ça aussi. Généralement, quand on s'assoit, on ne pense pas à quelle est mon intention pendant ces 30 minutes. Ou au début de l'année, je sais que c'est la tradition des résolutions pour l'année, etc. Ce n'est pas exactement ça que, quand je parle des intentions. Ce n'est pas... ça peut être plus... si j'ai l'intention de... je ne sais pas, de m'ouvrir plus à quelqu'un que je n'aime pas, je n'ai pas une, c'est pas une résolution, je vais être gentille avec cette personne, je vais l'inviter à dîner, je vais envoyer un email chaque semaine, je sais pas, comme une résolution comme ça, c'est plutôt une intention, c'est ouvert et c'est comme une rappel d'être ouvert à quelqu'un, c'est ouvert. C'est, je dis pas que je vais aimer cette personne, mais je vais essayer de ne pas la juger, je vais essayer de. Où j'ai l'intention de, je sais pas, moi je peux prendre mon exemple de travailler avec des réfugiés. J'ai l'intention de continuer à d'aller à leur rencontre. Je ne sais pas comment. Le centre où je travaille va fermer fin mars. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas quelles actions. Peut-être que ça va évoluer, peut-être aller à leur rencontre ne prendra plus cette forme-là, peut-être ça va être écrire un livre là-dessus, j'en sais rien. Mais, je peux avoir cette intention, et puis si je regarde que depuis quelques semaines je n'ai pas été au centre, je peux dire, ah, mon intention était d'aller à leur rencontre, qu'est-ce que je fais vis-à-vis de ça, etc. Moi-même, comme j'ai dit hier dans le cercle de parole, je suis toujours dans la phase, parce que j'ai décrit trois étapes dans cette pratique, de se questionner quelles sont mes valeurs les plus profondes, qu'est-ce que je souhaite pour les gens, mes proches, etc. Et de rester avec ce questionnement sans trop se préoccuper de comment formuler, comment se fixer, etc. La deuxième étape, c'est continuer le questionnement, de rester avec le questionnement. Et puis la troisième étape, c'est d'essayer de mettre les mots dessus et pour qu'on puisse se rappeler à un moment, etc. Et moi, je suis toujours... Je ne suis pas aux troisième étape. Je suis toujours dans le premier et le deuxième étape. Je crois qu'on peut tous avoir des affinités avec les différentes étapes. Moi, j'ai le moins d'affinité avec le mettre en mots, mais ce n'est pas vrai. C'est juste que je ne mets pas en mots comme je pense. Enfin, ça m'angoisse un peu l'idée d'être obligé de formuler. Et j'aime bien le questionnement. Donc peut-être je suis plus à l'aise dans cette continuelle questionnement. Je sais pas. Mais quand quelqu'un m'a demandé l'autre jour, je parlais avec quelqu'un de ça l'autre jour, et elle me disait que c'était ses intentions, elle me demandait ce que était mon, et pour moi c'était quoi. Et j'ai dit que je ne savais pas. Et j'ai ajouté que peut-être que quand je dis en disant ça, ça m'est venu peut-être que mon intention c'est de rester avec l'intention, d'avoir l'intention, quelque chose comme ça. Peut-être que pour moi ça suffit, je ne sais pas. Et dans quel contexte, toi, tu avais entendu cette histoire de...
Toi, je pense.
Ah, c'est moi qui ai raconté.
Je pense.
C'est possible.
Je l'avais entendu avec la cuillère.
Ah.
Ah, ok. Mais peut-être pas, je ne sais plus. Ouais.
Oui, oui, et parfois dans la tradition chrétienne, c'est raconté, c'est Saint-Pierre, puis on va parler de Saint-Pierre qui présente ça, où il y aura Jésus, ou je sais pas, mais dans les trucs soufis, je sais pas, il y a différentes versions de ça, mais ça existe dans toutes les traditions, parce que c'est tellement parlant comme histoire. Si on s'occupe juste de soi, on va tous crever, mais si on s'occupe les uns des autres, alors là, c'est un autre monde. Et ça illustre parfaitement cette histoire d'intention. Et quel d'autres exemples tu avais de l'économie de partage ou de...
Il y a pas mal d'économistes qui s'intéressent à des nouveaux c'est quoi le nom, pas au PIB mais au bonheur, Piketty, entre eux, il y a Piketty qui aussi travaille sur la
voilà.
Le Amartya Sen également.
Le Amartya Sen,
et elle cite tous ces gens
en fait, avoir pensé à lui, que je pensais quand tu parlais de lui. Sur des nouveaux indicateurs de bonheur, de bien-être, etc. Tu as des pays du Sud qui devraient, je regarde ça depuis longtemps, enfin, plein d'économistes.
Il me semble même, si mes souvenirs sont bons, Amartya Sen, c'était la perspective ultime, enfin l'objectif, ce à quoi ça doit servir, c'était, je ne sais plus si c'était formulé comme ça, mais c'était la libération. C'était un truc de libération. C'est-à-dire, est-ce que ça donne accès à un épanouissement
Oui.
Oui, elle cite tous ces gens.
Il y a un très gros acteur, penseur des grandes banques de développement. Donc, la Banque mondiale, c'était un des précurseurs de la Banque mondiale qui a repensé le développement.
Moi, j'avais été très intéressé par ce qu'avait dit Bernie. Je pense que ça devait être dans l'art de la paix, enfin, dans l'un des deux, là, soit l'art de la paix, soit Instructions to the Cook. Où il parlait des entreprises et comment que c'est très différent de, pour une entreprise de dire bon, on fait du profit et puis une partie de ce profit sera donnée à une fondation ou à des œuvres caritatives, etc. Et d'intégrer à l'intérieur même dans l'ADN de l'entreprise cette composante-là. Encore une fois, clarifier en fait qu'est-ce qu'on fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'est en train de faire Macron, d'essayer de repenser la finalité des entreprises et d'intégrer une dimension sociale, environnementale, etc. C'est quoi une obligation d'une entreprise? C'est quoi l'objectif, en fait, fondamentalement?
Oui, et donc, quand je cite ce livre, c'est qu'elle-même, elle est économiste de l'Université de Californie et elle tient un séminaire sur l'économie bouddhiste, mais elle travaille sur plein d'autres choses aussi. Et un grand espoir pour elle, et elle cite toute une liste des gens qui travaillent avec elle ou indépendamment d'elle ou qui étaient avant elle, etc., parmi tous ces gens. Et une longue liste, elle dit, c'est un grand espoir parce que c'est... elle cite plein d'études, etc., qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle fait, elle. Bon.
En fait, c'est caché souvent. L'intention est cachée, en fait, dans tout système, dans toute forme. On fait les choses, mais on sait pas forcément très clair ce pourquoi on fait les choses.
D'où l'intérêt de prendre un temps de regarder, mais...
On est dans une entreprise, mais au fond, c'est quoi les entreprises réfléchissent beaucoup, c'est quoi nos valeurs? Alors parfois, c'est juste du marketing, mais parfois, ça peut être plus que ça. c'est quoi nos valeurs, qu'est-ce qu'on cherche à faire.
Et ben, ça dépend des individus et ça dépend des entreprises aussi, parce qu'il y a des entreprises qui, c'est clair que c'est le profit qui, d'être mieux que les autres, de compétitif, etc.
Mais parfois, ça rentre en contradiction quand justement c'est ça, et en même temps, ils cherchent après à démontrer que c'est pas que ça, parce que publiquement, ça se fait pas de dire ça. Et après, les gens à l'intérieur se trouvent ça crée des contradictions qui sont difficiles après à gérer en interne et en externe.
Bah, et c'est difficile à gérer, par exemple, moi je parle de mon expérience dans un journal qui était détenu par une famille, et donc le principe d'un journal qui œuvre pour le public, pour donner des informations, pour jouer un contre-pouvoir avec le pouvoir, qui avait un rôle de public, quoi, de important d'information pour les autres, pour le public. Et en même temps, leur intérêt aussi pour la famille, c'était le profit. Et donc, ils gagnaient des sommes phénoménales tout en réduisant les employés, tous les coûts, parce que ça entamait le profit que la famille gagnait. Donc, c'était un peu compliqué de. Si on a ce double, moi j'ai dit que le modèle, moi j'estime que le modèle idéal pour un journal, ce sera que ce soit un public service, un service public, où il ne s'agit pas de gagner de l'argent. Évidemment, les gens vont être payés pour travailler, mais son existence n'est pas pour générer du profit pour un propriétaire. Parce que là, il y aura toujours des compromis à faire, il y aura toujours. Et ça revient à l'intention encore. La famille qui détient ce journal, ils ont cette idée qu'ils veulent rendre un service au public, mais ils s'occupent de leur profit, principalement, en fait. Donc, c'est compliqué, hein. Les intentions, comment. Il y a un exemple aux États-Unis d'un journal qui est un service public. Et c'est un grand journal et qui gagne plein de prix, etc. Et c'est détenu par une fondation. Et donc, ça ne génère pas de profit. On a la même histoire en France. Hein. Les journaux qui sont détenus par les.
Des vendeurs d'armes.
Voilà.
Entre autres choses.
On peut dire en français, ce n'est pas service public parce qu'on associe ça à
le gouvernement.
Au gouvernement. C'est l'intérêt général.
Voilà, intérêt général, peut-être c'est mieux.
Parce que. De NPR aux États-Unis, le journal.
NPR, c'est compliqué aussi parce que effectivement, ils ont de l'argent qui vient du gouvernement, mais ils sont considérés comme indépendants et ils réussissent. Hein. Je ne sais pas s'ils peuvent. Je crois que leur budget va être un peu. Hein, mais
oui, j'allais le dire. Je pense que Trump a coupé les.
A coupé leur budget. Coupé. Et je ne sais pas comment ils vont faire. Le journal de presse, c'est le journal en Floride. St. Petersburg Times, je crois que c'est. Et c'est détenu par une fondation, un institut. Qui était l'institut de recherche pour la presse, etc. Mais, et donc, j'imagine qu'ils ont des donations. Mais aux États-Unis, la philanthropie comme ça est très courante. Tandis qu'on pense que c'est pas. Pas tellement. Et Et ça nous amène à aussi nos intentions dans qu'on appelle l'octuple sentier, où il y a nos bouddhistes, où il y a les différentes right livelihood, right effort, comment dire en français tout ça.
L'effort juste.
L'effort juste,
le parler juste.
L'activité juste, le parler juste, etc. Comment gagner sa vie sans perdre, comme on dit, mais aussi comment gagner sa vie sans faire du mal aux autres. Et ça peut être très compliqué, parce que peut-être qu'on travaille dans une entreprise qui, justement, c'est quel journal qui est détenu par les vendeurs là ?
Ben, Le Figaro, c'est Dassault.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc un journaliste peut très bien considérer qu'il travaille pour le bien, intérêt général, transmettre des informations, etc. Et celui qu'il paye, lui paye parce qu'il vend des armes. Donc, quoi faire? Et c'est un jeu d'équilibre pour tous ces 8 points. Hein. C'est pas juste. Évidemment, c'est pas noir et blanc. D'un point de vue, c'est noir et blanc. Ça, c'est un point de vue littéral, comme on dit toujours. D'un autre point de vue, il n'y a pas de bien et mal, donc tout est bon. Mais d'un autre point de vue, c'est alors, dans telle ou telle situation, est-ce que le fait de transmettre des informations et rendre un service au lecteur et œuvrer pour la liberté de la presse, etc., est important, même si le salaire vient d'un vendeur d'armes. Est-ce que ça peut s'équilibrer ? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans cette position. Et je ne sais pas si les journalistes au Figaro se posent cette question. Il faut dire que Dassault, ils font d'autres choses aussi. Hein. Ce n'est pas juste vendeur d'armes. Non ? Je ne sais pas.
Oui.
Aussi les avions.
La défense au sens large.
Ouais, c'est ça.
Et la Gardère également, groupe de presse.
Ah oui, c'est vrai, la Gardère. Ouais. Alors, tout revient encore à quelle est notre intention en faisant ce qu'on fait. Ou, l'inverse, puisque mon intention c'est ceci, pour moi c'est juste de faire cela. Alors, ça nous ramène aussi aux trois tenets de Bernie Glassman, ce qui est nos trois préceptes de base aussi. Lui, c'est formulé dans le premier, c'est ne pas savoir. Donc, quand on fait ça dans un cercle de parole, j'essaie de ne pas savoir, de ne pas, dans le sens où je ne vais pas projeter sur l'autre, je ne vais pas juger, je ne sais pas ce qu'il va dire, j'ouvre la possibilité à toutes les possibilités de ce qu'il va dire, et pour moi-même, je ne vais pas juger, etc. La deuxième étape, c'est, donc mon intention, c'est une ouverture. La deuxième, c'est de porter témoignage, donc puisque je ne juge pas, puisque je suis dans cette intention, je peux juste être avec ce qui est. Je peux juste recevoir ce qui est dit, parce que je ne suis pas en train de les juger, etc. Je peux juste être dans une situation avec des réfugiés, ou avec mes collègues, ou dans ma famille, etc. Et le troisième point, c'est prendre l'action à la suite de ces deux premières étapes. Pendant un temps, Bernie avait formulé ça, prendre l'action, loving action, l'action aimante. Et puis il s'est dit, ben non, ça c'est trop déjà. Ça c'est avoir déjà trop un programme. que mon action va forcément être aimant. Et donc après, il avait essayé healing action, donc action qui guérisse. Puis il a décidé que non, ça aussi, c'était avoir trop de projets. Et donc maintenant, c'est juste, c'est, je ne sais pas exactement comment c'est formulé, mais l'idée, c'est que c'est l'action qui découle des deux précédents.
Bearing witness.
Et puis...
Qui quoi?
Action that arises from the first two. Je crois que c'est ça. Sans porter un qualificatif de quelle sorte d'action ça doit être. Donc on reste toujours dans l'intention, sans dire il faut être ce genre d'action ou ce genre d'action, ce genre d'action.
Et donc il y a un but, tu dirais, derrière de faire quelque chose, c'est-à-dire d'identifier une intention pour agir, quoi, ou enfin quelque chose comme ça. C'est pas simplement un je sais pas trop comment dire, juste une observation de ce qui se passe à l'intérieur, de quelles sont mes intentions, juste pour observation, quelque chose de plus.
Dans l'exercice que j'ai donné hier, c'est vraiment juste rester avec l'intention, les valeurs profondes qu'on a et les intentions qui donc survient à partir de là. Il ne s'agit pas de se projeter dans une action quelconque. Mais ce que j'indique aujourd'hui, c'est que même si on ne projette pas dans les actions, nos intentions vont avoir une influence sur ce qu'on fait. Mais on ne cherche pas à avoir ce but que je vais agir d'une telle ou telle façon. C'est juste, il y aura un effet là-dessus. C'est comme on dit du karma, il y a des conséquences. Il y a des actions et des conséquences. Et là, il y a des intentions et il y a des conséquences de nos intentions. Ça peut nous aider à, puisqu'on a clarifié nos valeurs et nos intentions, ça peut nous aider à clarifier ce qu'on a envie de faire à tel ou tel moment aussi, dans telle ou telle situation. Est-ce qu'on a envie de, puisque mon intention c'est de, je ne sais pas, est-ce que si mon intention c'est d'être, j'ai envie d'être plus clair, de voir plus clairement ma vie et des autres, est-ce que je vais, donc quand je suis confrontée à une situation où je vais me saouler, ou je vais me distraire avec des choses qui m'éloignent de la clarté que je veux, est-ce que j'aurais peut-être une possibilité dans cette situation de ne pas faire autant, je vais choisir de faire l'autre chose, je ne sais pas, ça c'est un exemple que j'ai pris comme ça. C'est difficile je me rends compte que je parle d'une façon abstraite et tout ça, mais c'est aussi difficile de formuler les intentions et les valeurs parce que c'est très intime pour chacun. Et donc, je prends des exemples qui sont un peu de l'emporte-pièce parce que, pour essayer d'illustrer, mais...
Moi, je trouve ça difficile aussi parce que j'ai l'impression que dès que tu identifies quelque chose, ça sonne creux en fait. Peut-être parce que c'est, je sais pas, c'est simplificateur ou c'est. Et dès que tu. Je sais pas, c'est un peu abstrait ce que je dis, mais. J'ai l'impression que dès que j'identifie un truc ou que. Ouais, voilà, que j'essaie d'exprimer ça, je sais pas, ça ça n'a pas grand. Après coup, je me dis, ça n'a pas grand intérêt en fait, de dire ça. Ou de... C'est comme si ça n'avait pas de substance, pas de poids, tu vois. Ah ouais, tiens, j'ai l'intention de faire ça.
Même,
ça
donc,
m'amène nulle part, en fait.
Dans ce cas, je dirais qu'il y a plusieurs possibilités. C'est de rester quand même avec le questionnement. Alors, s'il n'y a pas quelque chose qui est satisfaisant, rester avec ce questionnement. C'est un peu pour ça que je reste toujours, moi, je suis toujours dans cette phase. Parce que je n'ai pas trouvé quelque chose qui est vraiment ça. Ou aussi, ça peut être, j'improvise à partir de ce que tu dis, ça pourrait être, mon intention, c'est de trouver quelque chose qui ne sonne pas cru, qui me parle. Mon intention, c'est de trouver ça. Ça peut être des choses très basiques, hein, ça peut être mon intention, c'est d'être... Ce qui me tient vraiment au cœur, c'est d'être heureux. Et donc, mon intention, c'est d'essayer de trouver ce qui peut me rendre heureux. Et donc, quand je suis dans telle ou telle situation, je vais me demander, est-ce que ce que je fais maintenant me rend heureux? Ou, ça peut être, qu'est-ce que je peux faire pour aider de me trouver ce qui me rend heureux? Je ne sais pas. Mais ça peut être, l'intention peut être de trouver quelque chose qui a du substance pour moi, qui a une signification pour moi. C'est une intention vaste programme quand même, ça. C'est un peu quel est le sens de la vie, en fait. Si on pousse jusqu'au...
Mais en fait, je pense que c'est exactement pour ça que ça me semble difficile. C'est que le sens de la vie, c'est un peu une question qui m'a beaucoup préoccupé pendant des années et des années, je sais pas, depuis que j'ai 15 ans. J'avais beau creuser. Et au bout du compte, il y a un vide, quoi. Jamais arrivé en tout cas à dire, même dire, bah, il y a un sens. Je suis pas du tout convaincu. Et du coup, je pense que là, j'en suis plus venu à me dire, bon bah, laisse tomber ça quoi en fait, laisse tomber le sens de la vie, plus que d'essayer de continuer à. Peut-être que bon, je sais pas, j'ai toujours pas de réponse. Peut-être que si je continue de chercher encore plus, je trouve.
Bah, c'est la grande question de l'humanité en fait. Hein.
C'est
vraiment
plus satisfaisant ou plus. Facile ou plus de poser la question plutôt quel est le sens de ma vie, déjà commencer par là, et en traduisant par qu'est-ce que vraiment moi j'ai envie de faire avec ma vie, c'est moins abstrait. si on a tendance à plonger dans l'abstraction et à trouver que c'est un peu creux, c'est peut-être plus facile de s'interroger sur ma vie.
Et ben, souvent, je pense que c'est, les deux se rejoignent dans le sens qu'on on va être amené à dire quel est le sens de la vie, mais en fait, on parle de la vie. Et donc, ça peut aider de...
Oui. De ramener, oui, de ramener à ça, de commencer par ça, même si c'est...
Oui.
Enfin, je pense surtout pour... Je peux tout à fait me lié à ça avec mon bagage en philo, de commencer par les grandes questions. Et en fait, les grandes questions, après, c'est, ça peut être très insatisfaisant parce que tu te dis, bah, faut regarder toute la diversité, voilà. Ou quelle arrogance même de s'imaginer qu'on va trouver une réponse qui va satisfaire tout le monde. Et, mon Dieu, toutes les cultures, c'est très différent, etc. Ça devient très abstrait, et peut-être on perd de point de vue qu'on a, en fait, c'est par rapport à une angoisse qu'on a soi-même, si on se pose la question. On peut se cacher derrière l'abstraction. Enfin, c'est certainement moi un truc que je pouvais me cacher derrière l'abstraction.
D'où l'intérêt de s'interroger chacun. C'est pour ça que je dis que c'est très intime pour chacun. Et on est arrivé...
35.
Oui, donc il faudrait s'arrêter si on veut pouvoir faire le repas et manger en arrière. Donc, toi, tu vas nous dire ce qu'il faut faire. Toi, tu vas regarder quelque chose sur l'ordinateur. Quoi ?